Puis honnêtement, le mammouth, à date, dans mes contacts que j'ai eus, je sens une volonté de faire avancer les choses. Il est lent, mais je sens une volonté de régler des problèmes. C'est le plus gros défi professionnel de ma vie, là.
Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui parle du mammouth de l'éducation. C'est bien, on pensait que les mammouths étaient disparus, mais il y en a un en santé, il y en a un en éducation, fait qu'ils sont de retour. Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bon, Mario, quand t'entends Bernard Drainville, est-ce que ça te rassure, au moins il est conscient?
Ben, j'allais dire ça. Au moins, il est conscient. C'est vraiment ce qu'on peut se dire. Il est conscient. C'est son plus gros défi professionnel. Ça l'est, parce que l'éducation, c'est probablement ce qu'on a de plus important. Là. Pour quiconque pense à l'avenir, là, c'est là que notre avenir se dessine. Point. Mais Bernard Drainville, dans le fond, on dit, ouais, dans le gouvernement Legault, c'est un des seuls qui a l'expérience ministérielle. Là. Mais c'est quand même une petite expérience ministérielle. Elle a l'air grosse. On dit le père de la Charte des valeurs. Mais la Charte des valeurs, c'est un projet qui... c'était pas un projet d'administration. Hein? C'était un projet de loi là sur un certain nombre de principes qui a été finalement remplacé par la loi 21 sur la laïcité. Puis, dans l'exécution... Il a pas réussi à le faire adopter. Je peux difficilement le blâmer, lui, là. C'est Pauline Marois qui a finalement décidé de jouer ses cartes autrement puis de partir en élection en pensant que là, elle allait avoir son gouvernement majoritaire. Finalement, ils se sont fait battre, là. C'est pas de la faute à Bernard Drainville. Mais tu sais, à son bilan comme ministre, essentiellement, on a un dossier puis il a pas abouti, là.
Ben, il y a l'affaire de la fin des primes aussi.
Oui, quelques affaires de réforme parlementaire, c'est vrai. Le directeur du budget. Mais ce que je veux dire, c'est que... Puis encore là, c'était pas un ministère d'administration. Alors là, vraiment, c'était un gros réseau. C'est de la, quand je dis administration, de la vraie gestion, administrer quelque chose d'énorme, puis réussir à faire livrer des résultats à ce que lui-même décrit comme un mammouth. J'espère qu'il va réussir. On dit que c'est un gars très, très, très travaillant. Mais je trouve qu'il y a beaucoup à prouver.
Benoît.
Sur la plaque d'immatriculation de la voiture de Bernard Drainville, c'est moi, moi, moi. Tu peux lire les déclarations, là. Il dit, les gens, ils le voient, le défi. Tous ceux que je rencontre, ils me disent, hey boy, vous l'avez, vous, le ministère. Toujours à propos de lui. Lui et son gros nombril. Moi, moi, moi. Hey, il y a des choses à régler. C'est pas lui, on s'en fout, lui, s'il y a un défi à surmonter, s'il y a un mammouth, puis il va le manger une bouchée à la fois. Moi, moi, moi et mon nombril. Les profs, les élèves, les directions d'école, c'est ce dont il devrait parler, M. Drainville. Il est habitué, lui, de s'asseoir dans une chaise, la chaise de son prédécesseur, puis dire « Moi, je vais faire mieux ». Je le sais, je l'ai vécu avec lui à la radio. Il s'est assis à ma place. J'avais sorti tous les auditeurs possibles sur la planète. Puis après, il dit, moi, je vais faire mieux.
Ouais. Mais là, il fait pareil que Jean-François. T'as remplacé, c'était plus qu'un mammouth, c'était un tyrannosaure.
Merci beaucoup. Parce que là, t'arrives au niveau des monstres.
Tu mangeais les politiciens, tu n'en faisais qu'une bouchée.
C'est... Non, mais Drainville, il est ministre de l'éducation. Il devrait toujours commencer ses phrases en parlant des élèves et des profs, pas de son gros nombril. Et s'il fait pas ça, tu sais, par exemple, là, ça fait longtemps qu'on en parle, les diplômés universitaires qui veulent être profs, le ministère de l'Éducation les envoie soit faire un autre 4 ans d'université ou soit faire une maîtrise. Une maîtrise de 20 cours. Là, tu dis, c'est parce que tu peux pas travailler puis faire une maîtrise en même temps. Donc, ça prend 4, 5 ans, 6 ans. On règle pas le problème parce qu'on repousse du revers de la main des gens compétents, des diplômés universitaires, au lieu de leur dire, on vous donne 6 mois pour apprendre à enseigner. Non, retournez 4 ans. Et je vais vous dire une chose, si vous voulez des profs, va falloir régler cette affaire-là. Quand tu es diplômé universitaire, tu devrais avoir une formation de 6 mois, 1 an pour aller enseigner, puis là, ça va aider.
J'ai une question pour vous. On va le juger comment, Bernard Drainville? Tu sais, dans la mesure où un Pierre Fitzgibbon, tu calcules le PIB. Le PIB a augmenté, la différence avec l'Ontario est réduite. OK, c'est beau. La santé, tu as des indicateurs de t'attends plus, t'attends moins, liste d'attente, chirurgie. L'éducation, on va le mesurer comment, ouais, si c'est un succès?
Je pense qu'on peut le mesurer par la réussite scolaire, pour un, mais parce qu'il y a... au-delà de ça, il y a une partie qu'on va voir de nos yeux, là. Parce que quand on dit que les défis sont énormes, c'est parce que c'est absolument tout, là. Benoît vient de parler de ce qu'il fallait faire, là, parce qu'on manque de profs, mais on manque de profs et d'autres professionnels, et de toutes sortes d'autres professionnels non enseignants qui viennent, qui sont essentiels.
Mais le décrochage, il peut baisser si les notes baissent, puis les exigences baissent.
On peut jouer avec les chiffres aussi. C'est l'autre affaire. Ruba Gazal, aujourd'hui, elle envoie une lettre au ministre. Elle dit pas grand-chose. Je suis un peu déçu de la lettre. Mais il y a un truc qui doit être relevé. Elle écrit 15% des élèves de l'école publique régulières vont à l'université. C'est 60% pour le privé. Ça, là, ça en dit énormément. Faut que nos jeunes, une fois qu'ils sont à l'université puis au cégep, là, ils ont passé à travers le primaire et le secondaire, puis c'est une réussite. Mais de les amener là, c'est ça le défi. C'est de les garder à l'école, les intéresser à l'école, de pas leur offrir une éducation à rabais.
Mais en même temps, un diplôme d'études professionnelles, ça a du bon sens. C'est bon dans la vie. T'as pas besoin d'un bac dans la vie pour être heureux puis réussir.
Non, ça c'est clair. Tu vois des maçons, des électriciens, des plombiers qui font plus que des diplômés universitaires.
On n'a rien vu, les amis, là.
Ah ouais.
Il y en aura plus, là, des maçons. Tout ce que tu viens de nommer tout à l'heure, tu vas vouloir en avoir un chez vous, là.
Ouais.
Ça va être un exploit, tu vas payer. On n'a rien vu.
Ah oui.
Tous ces métiers-là qu'il n'y en a plus, là. Mais c'est parce que ça a plus de fin pour l'éducation, parce que tu manques de personnel, mais tout ça dans des bâtiments complètement vétustes, faut pas l'oublier. Et tu vas manquer de personnel aussi de construction, parce que là, le gouvernement débloque des budgets complètement fous, là, pour rénover en accéléré tous les bâtiments. Mais à mon avis, tu vas manquer carrément d'employés de construction puis de matériaux, effectivement.
Ça va être comme les chantiers, tu sais, ils vont ouvrir. Les compagnies de construction ont du personnel pour gérer 8 chantiers. Puis là, il y en ouvre 22. Là, ben, ils vont un petit peu là, puis un petit peu là, puis un petit peu là, puis ça prend 3 fois le temps. Puis là, on va avoir la même affaire. Tu parles d'un point de référence, là. Bernard Drinville va réussir s'il réussit à garder ses jeunes profs à l'emploi. Il y en a 1 sur 4, 1 sur 5, là, qui quittent avant 5 ans. Ça, là, c'est une mesure qui... Moi, j'ai fait des entrevues là-dessus, là, puis il y a une femme qui aimait ça enseigner, qui aimait ça, elle a ouvert une garderie. Elle dit, je n'étais plus capable. C'est n'importe quoi. Comment les gens sont payés? Les suppléants font 160$ par jour pour s'occuper des enfants. Ils sont censés... Écoute, c'est tellement tout croche. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et les syndicats sont en partie aussi responsables de tout ça.
Bien, on peut-tu dire que, mettons, les syndicats, il arrive un nouveau ministre, là. Donner le bénéfice du doute, ce serait déjà de dire, ben regarde, voici notre liste de problèmes à régler, puis on va s'asseoir avec le nouveau ministre, puis on va essayer de les régler.
Il connaît tous les
problèmes
à régler.
Mais non, souvent, ils décident avant que ça commence que ça marchera pas, puis on n'est pas écouté.
En tout cas, les profs qu'Alain a rencontrés, que Bernard Drinville a rencontrés, semblaient prêts à donner une chance aux coureurs. En même temps, ils n'ont pas le choix.
Mais c'était des profs, là, c'était pas les chefs syndicaux.
Bon. Parlons de
Juste là-dessus, là, faudrait que Bernard Drinville, là, arrête de parler en métaphore, les mammouths, qui parlent de choses concrètes. Là, on va voir s'il est compétent. On va voir s'il est pertinent. Puis on va voir si c'est juste à propos de son gros nombril ou si c'est à propos des élèves et des profs.
Parlons de la rentrée parlementaire, Mario. Éric Duhaime qui se dit négligé, Paul Saint-Pierre Plamondon qui vient d'envoyer un communiqué il y a quelques secondes à peine pour dire on est d'accord avec ses revendications, on l'appuie. Puis lui, ben, de son côté, a de la difficulté avec son budget, puis sa reconnaissance et son temps de parole.
Ben, découpons ça. Je vais commencer par le deuxième. Je vais commencer par Paul Saint-Pierre Plamondon. On se comprend qu'il s'est fait, en termes de négociation, là, il s'est fait squeezer en québécois. Là. Il s'est fait avoir semi. Moi, je trouve que, dans le fond, là, on n'a presque pas entendu après l'élection Gabriel Nadeau-Dubois. Sur cette question de la reconnaissance parlementaire, je me demande s'il a même dit quelques phrases publiquement. Et lui a tout attaché ses ficelles par en arrière. Il ramasse la grosse part du gâteau, des temps de parole, des budgets, 2 quelque chose millions. Puis, il n'a jamais été vu dire des mesquineries sur le Parti québécois. Officiellement, sur la place publique, il nous a toujours dit « Ah oh non, je veux que le Parti québécois soit reconnu, qu'il puisse faire son travail, puis tout ça. » Mais finalement, le PQ a eu des miettes. Puis le PQ, pour les gens qui comprennent pas, parce que je sais que c'est compliqué, il y a des gens qui disent, mais là, le PQ, c'est bien bizarre. On nous dit qu'il y a une entente signée, puis le PQ est insatisfait. Si t'es insatisfait, signe pas. Alors, les gens qui disent ça, ce qu'ils doivent saisir, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que si le PQ signe pas, Donc, c'est pas de problème. Ils sont pas dans l'entente. S'ils sont pas dans l'entente,
donc
là, on revient au règlement de l'Assemblée nationale, au règlement régulier, hors entente. Dans le règlement régulier, ce que ça dit, c'est que si t'as pas 12 députés ou 20%, ce qui est le cas du PQ, ces députés-ci seront traités comme des députés indépendants. Ça, ça veut dire à peu près une question par session parlementaire, une tout automne, une printemps prochain, par député. Puis ça veut dire, jamais de temps de parole réservé, ça veut dire aucun budget de recherche. Donc, dans le fond, Paul Saint-Pierre Plamondon est complètement à genoux, là. Soit il signe ça, ou soit il n'y a rien. Et là, il a signé. C'est pour ça qu'il signe de peur, de force, de reculons, utiliser toutes les expressions, mais qu'il signe pareil, même s'il n'est pas satisfait. Quant à Éric Duhaime, ses demandes sont parfaitement raisonnables, puis il devrait se faire dire oui, point. Là. C'est tellement, tellement simple, tellement banal, ce qu'il demande.
Mmh. Benoît.
Puis en même temps, moi je comprends tout ça, là, mais en même temps, je me dis à quel point il faut plier les règles. À quel point, tu sais, il y a des
règles. Il faudrait les changer, les règles. Mmh. Les règles sont archaïques, sont ridicules.
Je suis d'accord, mais mettez-vous ensemble.
Elle l'était, il y a 20 ans.
Pas des élections des années 80, je comprends ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, c'est ça les règles. Là, comment faut accommoder le Parti québécois? Comment faut accommoder le Parti conservateur? Bientôt, le Parti libéral? Est-ce qu'on va faire des règles à chaque élection? Où on détermine que désormais, il y a 4-5 partis qui vont se présenter à chaque élection. Il va falloir prévoir les intégrer, même s'ils n'ont pas d'élus. Là, Parti québécois,
des bonnes règles doivent prévoir tous les scénarios. Là, tu vois, c'est s'il y a deux partis sont bonnes, mais s'il y en a un troisième, mais c'est prévu. Là, qu'il y a moins de. Tu vas avoir une gradation, une espèce d'escalier là, que entre 10 et 15 députés, t'as ça. Entre 5 et 10 députés, t'as ça. Tu vois, le règlement devrait prévoir une gradation, prévoir les différents scénarios possibles.
Je suis d'accord. C'est ça, on pourrait faire ça, une gradation, mais si t'as pas d'élus, qu'est-ce que tu fais?
Tu peux avoir accès à la salle de presse. T'as pas d'élus.
Je comprends, là, les revendications. Pis c'est vrai que c'est raisonnable, mais t'as pas d'élus. Qu'est-ce que tu veux faire?
Parce que ce qu'il demande, Éric Duhaime, ça coûte zéro. En fait, le seul coût, là, c'est quand, si on lui donnait un petit bureau à l'Assemblée, quand il va à son bureau puis qu'il allume la lumière, c'est l'électricité de ça, là. C'est ça, la seule dépense de ce qu'il demande. Parce qu'avoir accès à la salle de point de presse, c'est juste moins de troubles pour les journalistes. Les journalistes vont vouloir couvrir Éric Duhaime quand il va dire quelque chose. Est-ce que les journalistes vont devoir traverser la rue, aller dans une salle d'hôtel à l'autre bout, ou l'avoir disponible dans la salle de conférence de presse?
Il peut toujours louer la salle de presse dans la salle de presse.
De Jacques Larchevêque. Ouais,
Mais pourquoi c'est compliqué? C'est toujours ça au Québec, là. Tu sais, t'as un problème devant nous autres, là. Là, tout le monde s'entend.
Non, mais vous aviez juste à voter pour les libéraux puis le PQ puis arrêter de créer de nouveaux partis.
C'est vrai, par exemple.
Tu sais, moi, le monde qui crée des
nouveaux partis. C'est le doigt sur le bobo.
Ben oui. Non, voulez-vous des solutions? Pierre Moreau, qui se présente pas?
Juste là-dessus, là. Tu sais, à un moment donné, on s'était parlé du débat des face-à-face, là, puis j'avais dit que M. Legault paraissait vieux face à la relève là, qui se présentait devant lui. Mme Andelal est partie, là. Mais on parle de ça aussi face à Pierre Moreau. Là, Gabriel Nadeau-Dubois, 32 ans, Paul Saint-Pierre Plamondon, 45, François Legault, 65, comme Pierre Moreau. Moi, j'ai de la misère à voir la relève, la relève en politique quand t'as 65 ans. Ça, c'est Pierre Moreau pour le Parti libéral.
Ça l'est plus, il va pas, là.
Ouais.
Ils viennent d'annoncer.
Il aurait écrit à son ex-employeur Radio-Canada pour dire qu'il va pas.
Ouais.
Est-ce qu'ils vont le reprendre? Parce qu'il y avait, je comprends, moi, qu'il s'était mis sur la touche parce qu'il y avait un risque qui se présente, il voulait pas devenir un acteur, mais là, ce sera un bon test pour savoir si vraiment il revient pas.
Mais bravo de l'avoir fait, bravo de s'être retiré. Puis d'avoir eu le sens éthique de dire je vais pas jouer au commentateur objectif quand je m'engage avec un parti, tu sais, je sais
qu'il est engagé. Quand il y a une possibilité, là, c'était même pas. Benoît, t'es allé au Salon du Livre durant la fin de semaine et tu voulais nous en parler.
Écoute, brièvement, là, je suis allé vendredi dernier, c'était le 25 novembre. La conférence COP15, ça commence le 7 décembre. Il y a déjà des clôtures de 3 mètres de haut. Moi, j'ai vu des policiers, 3 policiers autour d'un feu de circulation, là, sur le trottoir, jaser puis rire. Leurs 3 véhicules roulaient à vide. Il y a des policiers de la GRC qui sont assis leur cul dans leur auto-patrouille, qui font rien.
Mais là, ils surveillent les rainettes Faugrillon.
On a fermé. Non, même pas. On n'est même pas là. On n'en parle même pas. Il y a rien. Ils ont fermé tout à part les deux extrémités du Palais des Congrès. C'était ridicule. Tout le monde marchait. Il y avait beaucoup moins de monde. Tu sais, le Salon du Livre. N'est pas me dire que les clôtures n'auraient pas pu être installées à partir de cette semaine. Puis, tu sais, il y avait zéro stationnement disponible dans le Palais des Congrès. Tout ça parce qu'ils font un caca nerveux, puis là, ils veulent être bien, bien préparés pour des manifestations étudiantes à partir du 7 décembre. Puis là, ils vont fermer le métro le 1er décembre. Ils sont complètement débiles. Complètement débiles. Il n'y avait pas d'accès au Palais des Congrès. Tout le monde cherchait une porte pour rentrer, puis une porte pour sortir. C'était vraiment là. C'est drôle que là, ils prennent l'avance pour barricader le Palais des Congrès.
On va demander à l'ONU de gérer nos chantiers.
As-tu vu des beaux livres, au moins?
Oui.
Ben oui.
Non, c'était le fun.
As-tu des suggestions?
Non, j'adore ça. Mais on a aussi acheté plein de livres. Là. J'ai acheté le livre de recettes de Martin Junot. Si vous voulez savoir la première affaire qui me vient en tête. Là, mais on a acheté plein. On fait une razzia. C'est le fun. Tu rencontres du monde. Puis, c'est une place à aller. Tu fermes TikTok, puis tu ouvres un livre. Ça devrait être un nouveau slogan.
Tu voulais-tu dire un petit mot sur Révolution?
Révolution, juste en passant, Ticket Pro, tu sais, on a commandé des billets pour Révolution en tournée. C'est à peu près, sauf erreur, là, c'est 79$ le billet. Et Ticket Pro prend 10,50$ chaque billet. Chaque billet. 10,50$, puis on a pris ça en ligne. Là, je me dis, est-ce qu'il serait pas temps qu'on se pose des questions sur ce genre de tarif-là?
J'avais le panier bleu tantôt. On aurait pu leur demander ça. On voulait pas gérer les billets de spectacle.
Ben, tu sais, au lieu d'avoir Ticket Pro qui se prend 10$ sur 80 en service bullshit où c'est juste des ordinateurs qui règlent ça. Ça fait 40$ pour 4 billets en service de Ticket Pro. Je trouve ça un peu exagéré.
C'est vrai que c'est étonnant. Dans le temps qu'ils te l'envoyaient dans une enveloppe en papier chez vous, ils te chargeaient 3$ de frais d'administration.
Et là, ils font rien.
Tu fais électroniquement, ils t'en chargent 10.
Ah ouais, non, c'est fourette. Mais bref, c'est ça. C'était ma fin de semaine.
Bon, Mario, toi, ta fin de semaine? Du football hier?
Oui. Les Eagles ont gagné. J'ai eu une belle fin de semaine, même si j'ai fait du ménage tout le temps. Hey non, et sérieusement, vous voulez parler de la fin de semaine? Vous voulez m'entendre chialer pour finir un matin? J'ai posé des lumières de Noël. Sacrement d'orvis.
T'aimes pas ça? C'est la magie de Noël, Mario.
T'es-tu blessé? Es-tu tombé?
Non, pas du tout. Sais-tu quoi? Quand je pose des lumières de Noël, là, j'ai des flashbacks de mon enfance. Je viens en maudit contre le monde qui était bon en or plastique, qui savait tout faire. Tu leur mettais n'importe quel Saint-Sacrement de matériaux dans les mains. Là, ça, c'est beau ce que j'ai fait. Hey, bravo! Là, la prof, elle me disait, mais Mario, dessine un chien. Je mettais quatre pattes puis un corps en cylindre. Elle disait, c'est pas fait de même, la hanche d'un chien. Mais je ne sais pas comment c'est fait, la hanche d'un chien. Mais dis-moi, mais tu n'as déjà vu un chien d'en avoir un dans ta tête? Non. Quand tu me mets un crayon pour dessiner, j'ai plus rien dans la tête. J'en ai pas de chien dans ma tête, moi. J'en ai un chez nous à ferme, j'en ai pas dans ma tête. Fait quand je pose mes lumières de Noël, je reviens dans cet état d'esprit-là.
Mais tu pars avec un plan, mais t'arrives
non,
pas
je pars
à
pas
recréer.
En
oh, même pas.
Je pars avec une moue.
Avec la baboune.
Bon. Puis c'est une moue qui est bien mince à côté de celle avec laquelle je reviens après.
Mais c'est-tu beau? As-tu réussi ou...
Ta gueule.
Ah. OK, on arrête ça avant que ça dégénère. On va faire jouer de la musique de Noël. Je dis Noël, Mario, inquiète-toi pas. Salut.
Bonne journée.